c'est-à-dire la bactérie Mycobacterium tuberculosis qui a infecté la personne. Et la personne présente les signes cliniques, donc tous les signes cliniques de la tuberculose. À cet instant-là, cette personne a la maladie de la tuberculose parce qu'elle fait la tuberculose acquise. Maintenant, lorsqu'on parle seulement de la tuberculose seule, la tuberculose en un seul regorge les deux phases, donc la phase latente et la phase active. La phase latente, c'est celle que la personne n'a pas de signe clinique, ne fait pas la maladie, elle n'est pas contagieuse, peut vivre longtemps avec sans pour autant qu'il puisse faire la maladie. Et l'OMS dit que rare, peut-être 10% seulement de la population atteinte de la tuberculose latente arrive à la tuberculose active. Par contre, la tuberculose active, elle, la personne présente des signes cliniques et fait déjà la maladie et elle est contagieuse. Donc, cette dernière peut transmettre la maladie à une autre personne. Donc, la différence, c'est ça. Quand on parle de la maladie tuberculeuse, c'est qu'on est en phase de la tuberculose active. Mais quand on parle seulement de la tuberculose, cela regorge les deux types d'infections, tuberculose latente et la tuberculose active.
Ah, d'accord. La différence, elle est vraiment claire.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, quels sont les symptômes? Ça, c'est une question d'Alphonse Boaki. Quels sont les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose?
Eh bien, les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose sont le plus souvent, la personne a une toux, fait de la toux qui se prolonge pendant voire deux semaines à plus. Ça, c'est les premiers signes cliniques. Et l'autre, c'est la fièvre. Donc, vous avez une fièvre qui traîne avec souvent des sueurs nocturnes et il y a aussi des essoufflements, des douleurs au niveau de la poitrine, un état de fatigue, donc l'asthénie physique, une diminution d'appétit, une perte de poids. Voilà un peu les signes cliniques de la tuberculose.
Nous allons revenir sur quelles sont sur les différentes causes. Ça, c'est une question de Schultz Bekel. Il veut savoir quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la tuberculose. Certainement, quelles sont les causes de la tuberculose pulmonaire, bien sûr, parce que là, nous sommes en train de parler de la tuberculose pulmonaire.
Les facteurs de risque souvent de la tuberculose, c'est d'abord la promiscuité. Hein, la promiscuité dans les habitats, la malnutrition, il y a les mauvaises conditions sanitaires, il y a aussi le surpeuplement. Et bien évidemment, un manque de suivi médical en général. Voilà un peu les facteurs de risque de la tuberculose.
Thomas Sankara veut savoir si un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire.
Oui, bien évidemment. Un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire si et seulement si il se retrouve dans un environnement où, comme je venais de citer, où il y a tous ces facteurs de risque-là. Donc, s'il se retrouve dans un environnement de promiscuité ou bien une personne est atteinte déjà de la tuberculose, ce qu'on appelle par des cas contacts, il peut bien contracter la tuberculose. Les facteurs de risque comme la malnutrition, si la personne ne fume pas, mais elle est malnutrie, ce sont des facteurs de risque qui peuvent le prédisposer à avoir la tuberculose, les mauvaises conditions sanitaires, la promiscuité. Et tout ça là, même si vous êtes non-fumeur, mais si vous vous retrouvez dans ce genre d'environnement, et bien évidemment, vous pouvez être exposé à contracter la tuberculose.
Alphonse Boaki a posé une question sur la tuberculose osseuse, mais il va devoir patienter lors de nos prochaines éditions. Nous reviendrons spécifiquement sur la tuberculose osseuse. Mais il veut savoir combien de temps peut s'écouler entre le temps où la personne a contracté peut-être le virus et le temps où la maladie se déclenche.
Oui, le temps d'incubation pendant la période où la personne a contracté la bactérie est souvent de deux semaines, voire plus. Donc, si aujourd'hui vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse, il faut savoir que la tuberculose est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Donc, en parlant, en toussant, en étant tout le temps en contact avec une personne tuberculeuse, donc par ces postillons qui sont en l'air, et que vous êtes en contact avec ces postillons-là. Donc, le temps d'incubation peut être de 2 semaines et plus pour qu'on puisse faire la maladie. Cela aussi dépend du système immunitaire de la personne. Si la personne a un système immunitaire qui n'est pas immunodéprimé, donc qui n'est pas affaibli, donc il peut résister assez longtemps. Mais si déjà le système immunitaire de la personne est immunodéprimé, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a déjà l'infection du VIH, alors là, ben, le risque de développer la maladie sera encore un peu plus court, quoi, donc voire 2 semaines et plus.
Il faut aussi savoir si en dehors de la toux persistante, il y a d'autres symptômes qui peuvent révéler qu'une personne est atteinte de la tuberculose pulmonaire.
Oui, c'est en dehors de la toux persistante, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord la fièvre traînante avec des sueurs nocturnes, des douleurs au niveau de la poitrine, la perte de poids, l'asthénie physique et la perte d'appétit. C'est tous ces signes-là qui sont des signes cliniques de la tuberculose.
Et comment se fait le diagnostic? Est-ce qu'on peut le faire facilement à la maison ou il faut se rendre dans un centre hospitalier?
Et le diagnostic, il faut se rendre dans un centre hospitalier, se faire consulter par un médecin. Et le diagnostic dépend d'abord, premièrement, du type de tuberculose. Si c'est la tuberculose latente, donc il y a des tests immunologiques qui se font, à savoir les tests intradermiques et les tests intra. Et si c'est la tuberculose active, donc si la personne a déjà ces signes cliniques, eh bien, on fait la microscopie de crachat, on fait la culture des mycobactéries et des tests moléculaires pour pouvoir faire le diagnostic de la tuberculose.
Il y a Touré Vakaba. Il dit, docteur, quelle explication donnerez-vous à un patient qui présente des signes, notamment une toux interminable, mais dont les examens biologiques ne sont pas affirmatifs?
Pour un patient qui présente une toux interminable, déjà une toux qui met beaucoup de temps, rend suspicieux. Ce que je le penserais, puisqu'il a dit que les examens...
Les examens n'ont rien présenté.
Oui, les examens n'ont rien présenté. Ce que je lui demanderais, c'est de repartir chez voir le médecin, parce qu'il reste à savoir dans le diagnostic. Vous savez que la microscopie, c'est une méthode qui n'est pas suffisamment sensible, donc qui détecte près de 43% seulement les bacilles tuberculeux. Donc, il serait nécessaire pour cette personne de repartir voir son médecin et voir avec quel test, quel est le test qui a été utilisé pour pouvoir détecter la tuberculose et changer, essayer un autre test, par exemple, si c'était la microscopie, faire la culture ou bien faire les tests moléculaires, pour pouvoir avoir une confirmation si oui ou non la personne a la tuberculose ou n'a pas la tuberculose.
Jean-Claude de Moulaja nous écrit depuis Mbujimayi en RDC. Il veut savoir si la tuberculose est héréditaire et si une mère qui porte la tuberculose peut donner naissance à un enfant non atteint ou à un enfant atteint de la même maladie.
Concernant l'hérédité de la tuberculose, puisque c'est une maladie qui est guérissable d'abord. Je pense que la tuberculose, quand elle est bien traitée, quand on a bien suivi son traitement jusqu'à terme de son cure, et on est guéri, je ne pense pas qu'on puisse le transmettre. Alors, s'agissant de la mère qui est tuberculeuse, qui peut donner naissance à un enfant non atteint, cela est possible. Oui, une femme qui a la tuberculose peut donner naissance à un enfant qui n'a pas la tuberculose, si et seulement si, pendant que la femme a la maladie de la tuberculose, elle est suivie, elle est sous traitement. Si elle est sous traitement, elle mettra au monde un enfant sain. Mais si elle n'est pas sous traitement et que cette tuberculose qu'elle a se complique, c'est-à-dire que devient une tuberculose qui se propage tout le long des autres organes. Par exemple, pour une femme enceinte, vous savez que tout passe par la voie hématogène, donc la voie sanguine. Et à travers le cordon ombilical, elle peut transmettre la tuberculose à l'enfant. Mais c'est des cas vraiment très rares.
OK. Je sais que nous reviendrons sur le vaccin dans notre émission de la semaine prochaine, quand nous allons parler du traitement et de la prévention aussi. Mais quelqu'un veut savoir, quelqu'un dit, j'ai été vacciné contre la tuberculose. Est-ce que je peux tout de même être contaminé encore ou bien être contaminé simplement?
D'accord. Si c'est une personne adulte, je dirais oui. Parce que le délai, le temps de l'immunité du vaccin BCG, vaccin Tamer-Guerin, est de 10 ans. Donc, lorsqu'on atteint déjà l'âge adulte, on n'a plus l'immunité, c'est-à-dire le vaccin qu'on a pris il y a 10 ans de cela ne nous protège plus. Bien évidemment, même si on a été vacciné dans l'enfance, dès qu'on devient adulte, oui, on peut être exposé à contracter la tuberculose.
Un autre auditeur dit, j'ai eu un contact avec une personne souffrant d'une tuberculose pulmonaire. Que dois-je faire maintenant?
Il faut se rendre dans un centre de santé, consulter un médecin pour qu'il puisse évaluer et évaluer le risque et voir dans quelle mesure vous faire des tests pour pouvoir savoir si vous avez contracté ou pas la tuberculose.
J'ai été contaminée. À quel moment pourrais-je mettre d'autres personnes en danger?
Vous avez été contaminée. Eh bien, le temps d'incubation, le temps que vous avez été contaminé, si vous êtes en contact, comme j'ai dit que c'était une maladie qui se transmet par voie aérienne, cela peut prendre 2 semaines, voire plus, pour que vous puissiez contaminer une autre personne. Donc, si cette personne a si cette personne est en contact permanent avec vous, parce que ça aussi, c'est un fait, donc, en 2 semaines, oui, vous pourrez lui transmettre la maladie. 2 semaines et plus, voire plus, pourrait transmettre la maladie. Mais lorsqu'on sait qu'on a la tuberculose, il vaut mieux s'éloigner, c'est-à-dire s'éloigner des proches. Très souvent, le médecin juge si ça nécessite une hospitalisation. Vous suivrez tout votre traitement au niveau de l'hôpital. Mais s'il juge aussi que vous pouvez aller suivre le traitement à la maison, très souvent, on isole le patient. On lui met dans une chambre où il est seul. On essaie de faire attention à tout ce qui est hygiène à la maison pour ne pas, par exemple, peut-être manger dans la même assiette que la personne qui a la tuberculose. Donc, on isole la personne pour éviter qu'il puisse aussi transmettre la maladie à ceux qui sont proches de lui. Donc, quand on a la tuberculose, on sait qu'on est sous traitement. Et bien, si on est à la maison, on fait attention. On évite trop de contacts avec les autres pour éviter de propager la maladie.
Ça rejoint certainement la question d'Alphonse Mouaki qui veut savoir si quelqu'un qui souffre de tuberculose infecte aussi ses vêtements ou bien des surfaces, comme on le voit avec le coronavirus.
Oui, la tuberculose pulmonaire, oui, mais il faut que ça soit des contacts très répétés. Mais ce n'est pas comme avec la COVID-19 au toucher de tout, mais il faut que cette personne soit vraiment en contact. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a touché les habits d'une personne ayant la tuberculose, confirmer qu'on aura la tuberculose. Non, ce sont ces postillons-là. Il faut que tu sois en contact en discutant avec la personne, un contact très proche et répété. Là, oui, tu peux avoir la tuberculose. Mais ce n'est pas seulement au toucher des habits, parce que tu as touché les habits d'une personne ayant la tuberculose que tu peux avoir la maladie. Non.
À quel moment on parle de tuberculose pulmonaire contagieuse?
On parle de la tuberculose pulmonaire contagieuse lorsqu'il y a apparition des signes cliniques, lorsque cette tuberculose est active. Apparition des signes cliniques, lorsqu'il y a l'apparition des signes cliniques et que ça a été diagnostiqué, confirmé par les tests de laboratoire que la personne a la tuberculose, à cet instant-là, elle est contagieuse.
Merci. C'était notre entretien avec Madame Elion sur les modes de transmission de la tuberculose, les signes qui doivent alerter, ainsi que les personnes à risque. Madame Darrel Elion est enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, en République du Congo. À présent, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine, dans Carnet de santé, qu'est-ce que l'hépatite virale et êtes-vous à risque? Nous aurons des éléments de réponse. Et les responsables santé au Cameroun intensifient les efforts pour réduire l'incidence de l'hépatite virale dans le pays.
Ensuite, la Somalie est au bord de la famine, selon les experts. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le foie est un organe clé qui traite les nutriments, filtre le sang et combat les infections. Les experts affirment que sa fonction peut être affectée lorsqu'elle devient enflammée ou blessée. L'hépatite est une inflammation du foie. La maladie peut être causée par plusieurs virus donnant lieu à l'hépatite virale, par la consommation d'alcool, par certains médicaments et plusieurs problèmes de santé. L'hépatite virale chronique touche plus de 70 millions de personnes en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il existe 5 souches principales du virus de l'hépatite, les types A, B, C, D et E. L'OMS indique qu'environ 354 millions de personnes dans le monde vivent avec l'hépatite B ou C, les causes les plus fréquentes de cirrhose du foie, du cancer du foie et les décès liés à l'hépatite virale. Le Cameroun fait partie des pays africains les plus touchés par l'hépatite virale B, avec une prévalence de 8,3%. La maladie fait plus de ravages dans les zones rurales. Les autorités sanitaires camerounaises ont lancé l'année dernière un plan national de lutte contre l'hépatite virale. Emmanuel Jules Ntap nous en dit plus.
Au Cameroun, les régions de l'extrême nord et du nord enregistrent les plus forts taux de prévalence des hépatites B, du fait notamment des pratiques telles que les scarifications. Certaines cibles sont également de plus en plus touchés.
On a observé, d'après les données programmatiques et certaines études qui ont été menées, une augmentation de l'incidence de la maladie, du virus hépatite virale B, en particulier de manière globale, et aussi en particulier dans certaines populations cibles. Comme les femmes enceintes.
Une tendance qui se confirme dans les structures sanitaires où l'on peut recourir à des tests de dépistage. Dans cet hôpital privé, il faut débourser 6 000 francs CFA, un peu plus de 9 dollars, pour connaître son statut au bout de 30 minutes.
L'hépatite B est transmise en fait par 3 modes. Principalement, il y a la transmission materno-fœtale, il y a la transmission par voie parentérale. Par voie parentérale, on parlera là en fait une contamination à travers le sang, les objets souillés, chez un patient déjà préalablement contaminé à l'hépatite B. On retrouve en fait différents autres modes de contamination et dont on s'accentue en fait à chercher au niveau des pratiques sexuelles, des rapports sexuels anal. Ce n'est plus par la voie normale, ce qui favorise en fait l'apparition en fait des nouvelles variantes.
Toutefois, tout liquide biologique comme la salive, les sécrétions vaginales, le sperme, la sueur peut aussi transmettre les hépatites B. Une maladie complexe qui a mené le Cameroun à adopter depuis août 2021 un plan stratégique national de lutte contre les hépatites B. Le plan sera mis en œuvre jusqu'en 2024.
On fait beaucoup de plaidoyer auprès des décideurs politiques dans la lutte contre les hépatites virales, notamment à travers les organisations de campagnes de masse, soit des dépistages, des sensibilisations. Nous avons qui vise aussi l'intégration de la vaccination à la naissance, donc contre l'hépatite virale B, de manière systématique dans le calendrier de vaccination, donc pour que d'ici l'année prochaine ou bien l'année suivante prochaine, on puisse effectivement implémenter l'introduction de ce vaccin à la naissance.
La phytothérapie tente aussi de se frayer un chemin dans la lutte contre les hépatites B au Cameroun. Mais le gouvernement encourage les patients à se rendre dans les 19 centres de prise en charge des hépatites B créés sur l'ensemble du territoire national. À Yaoundé, seuls 3 centres sur les 6 que compte la capitale sont opérationnels.
Le docteur Swale Pazi Kitabou est le chef de l'unité des maladies du système digestif et du foie à l'hôpital national de Muhimbili à Dar es Salaam en Tanzanie. Il nous en dit plus sur l'hépatite virale.
Ce n'est pas que la tendance est à la hausse, mais plutôt que le modèle de diagnostic a été amélioré. Nous en sommes plus conscients et nous pouvons donc dire que la tendance est à la hausse. Je dois mentionner qu'il existe encore un grand groupe de patients qui vivent avec l'infection, qui ne savent pas qu'ils sont infectés. C'est un grand nombre et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'éducation et encourageons les gens à s'informer sur la maladie. Plus de 600 000 personnes meurent chaque année à cause de l'hépatite B. Environ 300 millions de personnes vivent avec la maladie. Ainsi, les gens devraient être informés des faits afin qu'ils soient conscients de l'importance du dépistage. Bien sûr, le dépistage est également un défi car la plupart du temps, il n'est disponible que dans les centres de santé en ville. Donc, si vous vivez dans des zones rurales, c'est beaucoup plus difficile. Au cours des 6 ou 7 dernières années, dans notre pays, il y a eu beaucoup de développement autour de la vaccination pour protéger les enfants contre le virus. Donc, tous les enfants devraient vraiment être vaccinés. Une autre chose sur laquelle nous travaillons ici, c'est de rendre la vaccination contre l'hépatite B accessible aux personnes âgées. Les personnes dont le test est négatif doivent être vaccinées. C'est une partie très importante de la prévention. Le gouvernement et les autres parties prenantes devraient investir dans la prévention de l'hépatite B de la mère à l'enfant en veillant à donner accès au vaccin à tous, surtout les mères séropositives pour l'hépatite B qui accouchent des enfants séronégatifs afin que les enfants puissent être vaccinés tout de suite. Mon cri au gouvernement africain de tout le continent est de donner la priorité à la prévention afin de couper la racine dans la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant et donc de diminuer la probabilité de la propager au reste de la population. Le gouvernement devrait également investir dans l'accès et la sensibilisation au dépistage afin que nous puissions traiter l'infection avant qu'il n'y ait de complications. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas qu'il a l'hépatite B peut développer une cirrhose qui met la vie en danger. Donc d'abord, vous dépistez, puis vous traitez, vous vous assurez d'un suivi afin de minimiser les complications potentiellement mortelles et la mort.
Les experts affirment que les mauvaises saisons des pluies, les conflits et l'impact de la guerre en Ukraine poussent des millions de personnes en Afrique dans l'insécurité alimentaire. Les céréales et les fourrages manquent dans certains pays également touchés par le changement climatique. Alors que pensez-vous de l'insécurité alimentaire en Afrique et comment y faire face? Voici quelques réactions sur Facebook. Saad Ibrahim Barry écrit: l'insécurité alimentaire en Afrique est due à des facteurs endogènes. La crise existait bien avant la guerre en Ukraine. Le problème de l'insécurité alimentaire doit être résolu au niveau politique, économique et climatique. Alphonse Mbouaki répond: pour y remédier, changeons nos habitudes alimentaires. Préférons et consommons local. Cela nous donnera l'indépendance alimentaire et nous épargnera des importations. À la place du blé, nous pouvons cultiver la farine de manioc, de maïs, de riz et fabriquer des pains dérivant de ces cultures. L'hôpital Banadir de Mogadiscio déborde de parents très inquiets pour leurs enfants malnutris. Cela fait 4 mois qu'il n'a pas plu en Somalie, au Kenya et en Éthiopie. Selon les météorologues et les climatologues, il s'agit de la pire sécheresse depuis plus de 40 ans à frapper cette région, terrifiante qu'ils aient jamais connue. Le récit d'Abdourahmane Dia.
L'hôpital de Banadir a largement dépassé sa capacité d'accueil, non pas avec des patients infectés par un virus, mais plutôt avec des enfants souffrant de malnutrition.
Nous recevons 3 fois plus de patients qu'avant. Nous avons parfois une pénurie de lits en raison du nombre croissant de patients qui viennent suite à la sécheresse. L'hôpital doit être amélioré en termes de capacité en lits. Il y a un besoin pour les mères à recevoir des repas nutritifs.
Les experts ont mis en garde contre la menace de la famine dans la Corne de l'Afrique en raison de la sécheresse et l'Organisation météorologique mondiale projette une autre saison de pluie déficitaire.
Nous voici à la fin de notre programme « Votre santé, votre avenir ». Dans la première partie, nous avions reçu Mme Darrell Ignon, enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marimba-Vidou Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi doctorante et mène des recherches sur la tuberculose à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Nous avons parlé des modes de transmission de la tuberculose, des signes qui doivent alerter et des personnes à risque. Dans la deuxième partie, Dino Moudou nous a présenté Carnet de santé.
Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Elle vous a été présentée par Nanit Kalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de...